Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, comme toujours, mes complices Tiphaine et Victor, et votre serviteur André Satenza. Nous accueillons aujourd'hui le directeur général de l'Arroitière, un centre de formation dans le travail social et également un lycée d'enseignement professionnel, l'Arroitière situé sur plusieurs sites dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Mon invité, David Lantelme. Bonjour David, comment allez-vous ?
Bonjour Andrés, je vais très bien et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui dans vos studios pour parler de l'histoire et de l'association l'Arroitière.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors l'Arroitière a une longue histoire, créée en 1943, centre polyvalent de formation professionnelle. L'Arroitière trouve son origine dans une double volonté, celle de venir en aide et de préparer des jeunes à un avenir professionnel pour valoriser des compétences d'un territoire, et en particulier le territoire rural. Et vous dites d'ailleurs dans vos nombreuses contributions intellectuelles de votre association et centre de formation, des personnes de faibles conditions, c'est-à-dire peut-être les plus fragiles, peut-être les plus indigents de notre société. Mais également de donner comme objectif, de redonner à un territoire ses lettres, pour ainsi dire, de noblesse, en accompagnant ceux et celles des enfants qui souvent quittaient la campagne pour rejoindre la ville, alors qu'il y avait une conviction forte de la part des fondateurs, c'est-à-dire créer une activité dans le milieu rural. Et il me semble que vous l'avez réussi. Monsieur David Lantelme, vous êtes diplômé du CAFDES, diplôme de référence dans le secteur social et médico-social. Vous avez démarré votre carrière comme éducateur. Vous avez suivi, pourrait-on dire, un parcours classique, éducateur, chef de service, directeur adjoint. Vous avez forgé vos armes et votre connaissance de la protection de l'enfance, y compris également pour la protection judiciaire de la jeunesse. Vous avez abordé aussi le secteur du handicap, notamment en accompagnant des personnes en situation de handicap. Et vous gérez cette institution. Vous avez pris la direction donc en 2017 et vous voilà à la tête d'un beau établissement. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, Monsieur David Lantelme, quelques dates qui ont marqué cette riche histoire ? Parce qu'il y a là un héritage formidable. Et là, vous êtes le responsable de cet héritage aujourd'hui.
Et oui, Andrés, je vous remercie pour cette introduction qui effectivement relate et mon parcours et les débuts de l'Arroitière en tant qu'association. Mais peut-être quelques dates juste avant 1943, où effectivement nous sommes fondés en association loi de 1901 reconnue d'utilité publique. C'est en 1923, donc c'est l'année prochaine que nous fêterons les 100 ans de l'Arroitière en tant qu'association qui accueille et qui accueillait des Toulousains en 1923 et 24, des Toulousains qui venaient un peu se mettre, alors soit au frais, hein, soit goûter aux joies de la campagne. En tout cas, c'était déjà des centres
aérés. Les jeunes citadins qui venaient chercher des colonies de vacances, peut-être.
Exactement, exactement. Et puis, c'est en 1939 aussi que nous avons commencé, avant d'être association, à former dans le milieu rural, comme vous l'avez bien expliqué, principalement de jeunes mères ou de jeunes femmes au foyer qui avaient nécessité de pouvoir se former à des métiers tels que la couture ou autre formation. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les archives que nous étions centre d'apprentissage, déjà il y a de très 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 nombreuses années, sur des métiers effectivement de couture et liés justement à l'enseignement ménager.
Quand on voit l'évolution de notre société et la formation des jeunes filles, vous vous imaginez quand on disait les arts ménagers ou commencer par la couture. Donc on voit bien l'évolution qu'a suivi votre institution.
Tout à fait. Alors ce qui est, enfin moi il y a une date qui est très importante que j'ai retenue dès que je suis arrivé à La Roitière, c'est parce qu'en 1940, bien entendu, chacun connaît les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1940, La Roitière a été fermée pour réouvrir ses portes en 41. De 41 à 43, elle a hébergé en fait des réfugiés qui venaient des territoires occupés par l'Allemagne.
Et donc j'imagine des enfants et des femmes, comme d'habitude, ce qu'on voit aujourd'hui sur les
malheureusement
routes,
ce qu'on peut encore retrouver aujourd'hui avec les événements et la guerre en Ukraine. Alors, effectivement.
Donc aujourd'hui, c'est combien d'étudiants ou combien de stagiaires dans votre institution, parce que vous êtes sur plusieurs sites. Site de Castelnaudary, peut-être site historique, vous êtes sur Perpignan, vous avez d'autres antennes. Alors expliquez-nous cette géographie et pourquoi aujourd'hui vous êtes réellement implanté sur ce territoire des Pyrénées orientales et de l'Aude.
C'est encore un peu l'histoire qui nous a amené, puisque j'ai aussi pu découvrir dans l'histoire de la Roitière que nous faisions déjà des cours par correspondance. Alors, on n'était pas dans le distanciel. Hein,
une institution à la pointe.
Une institution à la pointe, déjà très rapidement, et qui s'est avéré être un outil indispensable à la formation sur la région Occitanie, notamment sur ce qu'on appelait avant le Languedoc-Roussillon, et qui permettait effectivement à nos formateurs d'être en mouvement et d'aller former dans les différents territoires. Alors c'est vrai que j'ai aussi pu constater que c'était dans les années 50, il y a une équipe qui est partie sur Toulouse et qui a créé l'institution Château Sage. Voilà, la Château Sage qui est une institution toulousaine bien connue.
Toulousaine bien connue.
Et qui a été formée en partie par une équipe qui venait de La Roitière, voilà, et qui avait aussi repris le centre ménager de Saint-Simon. Et du coup, petit à petit, comme ça, on a été amené à se déplacer sur les territoires, avec aujourd'hui, sur le siège donc à Souyanels, proche de Castelnaudary, où nous sommes partenaires avec vos équipes.
Avec d'autres équipes, sur aujourd'hui Olympe de Gouges.
Entre autres, exactement. Entre autres. Voilà. Et puis, nous avons été amenés à nous déplacer. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que nous occupons 7 secteurs géographiques différents. Alors, principalement le siège sur Souyanels, proche de Castelnaudary, où là, nous formons des lycéens sur le lycée d'enseignement professionnel, dont vous avez parlé tout à l'heure, sur des bacs pro SAPAT.
Donc, lycée, bac pro pour l'agriculture en particulier.
Alors, c'est le ministère de l'Agriculture.
C'est le ministère de l'Agriculture,
mais
oui.
Mais c'est essentiellement un bac et un CAP, service à la personne. Voilà. D'accord. Donc, on est en lien avec le ministère de l'Agriculture, mais sous contrat avec l'État.
Et là, vous êtes un lycée sous contrat d'association, donc vous avez un certain nombre d'enseignants à votre disposition.
On a des enseignants de droit public, voilà, et quelques enseignants de droit privé, une vie scolaire, du secrétariat.
Et ça représente combien de jeunes étudiants, de jeunes lycéens ?
Pour le lycée, c'est sur Souyanel, 180 élèves. Voilà, donc c'est une structure à taille humaine.
À taille humaine, comme on dit. Là, les jeunes sont bien suivis, bien encadrés.
Très recherchés actuellement, très recherchés aujourd'hui, puisque avec les événements du Covid, c'est vrai qu'on a les familles actuellement qui sont plus à la recherche de structures qui vont ne pas développer trop de monde en même temps.
Un lycée où il y a 1000 jeunes, c'est anonyme, là. Connaissance précise. Du lycée.
C'est ça. Et je vous ai déjà invité à venir, Andrés, sur le site. Et vous voyez qu'il y a une vie de village très animée en journée, puisque nous avons des lycéens. Nous accueillons aussi, le centre de formation en travail social sur Souyanels, avec à peu près 280 à 300 étudiants à l'année.
Quelles sont les formations que vous dispensez pour le travail social ?
Alors, nous avons des formations qui partent en diplôme d'État du niveau 3 au niveau grade licence aujourd'hui, puisque nous avons depuis 2009 des formations éducateurs et éducatrices spécialisées, des formations moniteurs éducateurs et monitrices éducatrices, des formations TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, un métier que nous défendons corps et âme, puisque C'est un métier qui tente aujourd'hui à disparaître, malheureusement, et nous œuvrons, en tout cas, nous travaillons beaucoup avec la région et des associations de Pyrénées-Orientales actuellement, et on espère associer d'autres associations qui utilisent ce métier-là pour l'accompagnement des familles et des publics, pour justement redorer un petit peu l'histoire de cette formation, parce qu'il n'est pas question pour nous, centre de formation, ou de voir disparaître un métier qui a toute son importance dans le social.
Parcoursup vient de tomber, votre centre de formation adhère et est inscrit dans le système Parcoursup pour recevoir des étudiants. Ça a été une bonne moisson, pourrait-on dire, cette année de Parcoursup. Vous avez fait le plein de vos étudiants et lycéens.
Alors le mot moisson est peut-être pas le plus adapté, mais quoique effectivement, comme on est au milieu des champs avec du blé actuellement, peut-être que le mot moisson finalement s'adapte bien. Mais disons que nous avons eu suffisamment de candidats pour pouvoir faire des sélections dignes de ce nom, recevoir d'excellents candidats, voilà, avec déjà des parcours universitaires. Candidats et candidates, bien sûr, avec des parcours universitaires et de ce qu'on a pu retenir, en tout cas des sélections qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, je crois, ou trois semaines.
Voilà, Parcoursup vous fait la première sélection d'affectation.
Voilà, c'est ça.
Et ensuite, vos équipes et vous-même, vous les recevez en entretien pour une affectation définitive.
C'est ça.
Vous faites cela. Comment s'organisent ces sélections? Vous les convoquez? Il y a des jurys, il y a deux ou trois personnes, c'est l'équivalent d'un grand oral. Comment ça se passe concrètement?
Alors, juste une petite parenthèse, oui, moi j'ai fait des sélections en tant que personne, en tant qu'éducateur il y a quelques années, c'était au siècle dernier, hein, voilà. Et puis c'était des sélections où on venait pendant deux jours et demi
jours.
Sur site. Voilà. Aujourd'hui, les sélections, bon, pour des raisons évidentes d'organisation, de conditions de travail et d'organisation, font que c'est plutôt sur un entretien d'une demi-heure avec au préalable un écrit même, voilà, qui nous permet d'avoir au moins un minimum.
La motivation? Je veux dire, la motivation, est-ce qu'il y a une attractivité de ces personnes qui viennent vers le travail social? Ils ont une connaissance du travail social ou c'est vraiment la découverte?
Alors, Parcoursup a changé forcément l'âge et le public.
Donc vous avez du public plus jeune.
Oui. Alors, on a parfois du public qui peut se confondre avec les élèves de terminale du lycée. Ah. Voilà, pour la petite anecdote. Mais ils changent de statut, puisqu'ils ne sont plus lycéens, mais bien en formation, ce que nous, on appelle formation adulte, mais formation en travail social. Voilà. Mais c'est intéressant, très intéressant que vous posiez la question de l'engagement. Enfin, vous avez parlé de motivation. Moi, je parlerais plus d'engagement. Parce que.
Vous cherchez des jeunes qui soient engagés. Oui. Le social pour eux doit être un vrai choix, quoi.
C'est ça. Oui. Alors, il y a une alarme qui a sonné quelque part. Je ne sais pas si les auditeurs entendront, mais nous, on a bien participé à... Voilà. Donc, nous avons... La question de l'engagement est essentielle. Et nous avons... j'ai l'impression que nous avons moins de candidats, mais que les candidats qui se présentent à nos sélections sont vraiment des personnes qui savent pourquoi ils viennent faire ce métier, qui connaissent effectivement la présence de publics en grande difficulté. Et c'est certainement un sujet que nous aborderons dans une deuxième partie d'émission.
Et donc le taux de réussite au diplôme, quand on arrive en fin de parcours de deux ou trois ans de formation, vos jeunes impétrants réussissent parfaitement.
Il y a une spécificité auquel on tient beaucoup à La Roitière, et vous l'avez dit un petit peu en introduction, c'est aussi notre capacité à accueillir tout public.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est en capacité de pouvoir accompagner l'ensemble des publics, quels qu'ils soient, et d'essayer de les emmener au bout de leur projet et à l'obtention du DE, que ce soit
du
grade de licence, ou que ce soit sur un niveau 3, style du DE-AES. On a une fierté, on accueille sur Parcoursup à La Roitière, on a regardé un petit peu les statistiques régionales et on accueille un fort pourcentage de personnes qui sont, ou d'anciens étudiants, élèves, pardon, qui ont un bac professionnel ou un bac technique.
D'accord.
Voilà, on est à
donc,
peu près.
Est-ce qu'on peut dire que l'ascenseur social fonctionne à La Roitière?
En tout cas, nous, on.
En tout cas, vous faites tout.
On s'y emploie, on s'emploie à ce qui fonctionne correctement. D'accord. Oui.
L'apprentissage, vous le développez également dans la filière du travail social. Et combien d'apprentis aujourd'hui dans vos effectifs?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait effectivement on était centre d'apprentissage quand la Roitière était un centre ménager, hein, voilà, sur des métiers plutôt techniques. Aujourd'hui, nous sommes depuis 2007, donc avec un CFA historique qui est le CFA hors les murs sanitaire et social à Montpellier.
Alors, quand on dit pour nos auditeurs un CFA hors les murs, ça veut dire quoi concrètement?
C'est-à-dire qu'en fait, le CFA fonctionne avec plusieurs UFA, voilà. Unités de formation d'apprentissage, qui sont disséminées un petit peu partout dans la région.
D'accord. Avec des centres, comme vous appelez, sites qualifiés.
Voilà.
Et ces sites qualifiés, on sait que les jeunes garçons ou jeunes filles qui sont accueillis dans des conditions tout à fait idoines pour réussir parfaitement les études et avoir un bon niveau de qualification.
Oui, alors du coup, les sites qualifiants, c'est encore un autre objet que nous pourrons aborder, Andrés, plus tard. Je suis fort intéressé parce que sans réseau ou sans partenariat, on le parle, hein, sur le territoire, la Roitière ne pourrait fonctionner. Mais pour revenir au nombre d'apprentis, aujourd'hui, nous sommes à 142 apprentis sur l'ensemble des territoires, principalement sur le territoire des Pyrénées-Orientales, pour du coup des formations moniteurs, monitrices, éducatrices et AES.
Et ils vont travailler dans les associations de toute la région Occitanie, la plupart de ces personnes en
apprentissage. Oui, avec quand même, si possible, un respect des territoires, puisque comme nous sommes plusieurs UFA, il y a un respect aussi des territoires.
Il y a un partage, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait une concurrence entre les centres de formation, pourrait-on dire. Alors, en tout cas, trop de concurrence,
il faut
une répartition.
Une concurrence régulée, dirons-nous.
Voilà, une concurrence régulée pour permettre, bien entendu, aux le recrutement se passe bien à la sortie de la formation d'apprentissage, pas trop de difficultés.
Andrés, ce n'est pas à vous que je vais apprendre aujourd'hui la
pénurie.
Alors, je ne sais pas si c'est la pénurie, mais en tout cas, voilà, la difficulté que les structures rencontrent à recruter. Donc, c'est pour ça que nous essayons, d'être le plus clairvoyant possible sur cette situation-là. Et on crée des partenariats avec des réseaux qui permettent, effectivement,
d'avancer.
Du recrutement.
Le recrutement qui se fait dans de bonnes conditions. Il y a un certain nombre d'associations qui se sont lancées massivement pour l'apprentissage. En tout cas, c'est le cas de l'ANRAS pour l'année dernière, en tout cas l'année universitaire, une cohorte de 50 apprentis. Et je sais bien évidemment que votre centre de formation offre également sur ex-Languedoc-Roussillon beaucoup de jeunes apprentis dans les établissements, en tout cas, que nous gérons de l'ANRAS. Écoutez, je vous propose une courte page et nous allons parler de Beko qui chante « Je reviens te chercher » et c'est Luz Casal qui nous propose cela.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est bien ruiné ou volé. Qui a gagné, qui a perdu, on ne sait rien. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. viens te chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ces paliers, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Sentinelle d'Humanité.
David Lantelme, mon invité, nous parlons du centre polyvalent de formation professionnelle La Roitière, situé sur plusieurs sites, mais en particulier un site historique près de Castelnaudary, une association qui avait été créée dans les années 1920. Son directeur, David Lantelme, vient de nous donner quelques dates qui ont marqué cet héritage humaniste. Abordons cette question du projet, en tout cas fondamental, du projet pédagogique de l'établissement. Vous vous réclamez, pourrait-on dire, d'une éducation populaire, bien évidemment, l'émancipation des personnes est au cœur de votre projet, mais aussi donner aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui veulent aborder le travail social, un champ, pourrait-on dire, pluridisciplinaire. Le métier que nous faisons fait appel à de la psychologie, à de la sociologie, bien entendu du droit, de l'économie. On a besoin d'avoir des esprits bien formés, très ouverts pour comprendre la complexité de ce monde et puis de comprendre également les pathologies et les difficultés que trouvent les jeunes qui sont souvent placés dans les établissements de type maison d'enfants à caractère social, troubles de comportement dans les ITEP. Pédagogie active, c'est-à-dire que vous mettez les jeunes en situation, donc, pourrait-on dire, pour résoudre les problèmes, pour trouver la bonne réponse. Les jeunes suivent, ils apprécient cette pédagogie active.
Alors, donc, c'est vrai que notre philosophie est de répondre, vous l'avez dit, hein, aux besoins du territoire, déjà, dans un premier temps. Et ce qui est très important pour nous, ça je l'avais déjà un petit peu annoncé, c'est que nous devons ouvrir nos formations pour tous. Et ce qui nécessite quand même que nous puissions placer dans le programme de formation tous les éléments qui sont issus du référentiel, mais en même temps, en mettant en place ce que vous appelez et ce que nous mettons en avant, la pédagogie active et la pédagogie par alternance. Ce qui nous permet de travailler avec les étudiants et les étudiantes une partie de théorie, comme vous l'avez dit, hein, de sociologie, de psychologie, avec différents auteurs, différents ouvrages. D'ailleurs, à ce titre, nous avons un CRD, un centre de documentation.
Vous avez un centre de documentation très doté, pourrait-on dire. Voilà, c'est important qu'on se retrouve dans une belle ambiance où la bibliothèque, le centre de documentation permet d'accueillir des jeunes, réfléchir. Tout n'est pas sur les sites Internet, même si aujourd'hui toute la documentation est disponible sur le réseau. Je crois que c'est important qu'il y ait toujours un lieu où on peut se retrouver dans du silence, pour se concentrer, pouvoir lire. Il y a quand même un effort intellectuel à fournir. C'est
oui,
important.
Et puis comme nous avons préféré aussi le présentiel au distanciel pendant cette période un peu compliquée liée à la pandémie, nous préférons aussi le livre papier avec des pages, et du coup, plutôt qu'à l'ordinateur, effectivement, donc un centre de documentation assez actif, voilà, qu'apprécient beaucoup les étudiants. Ouais. Ce qui me paraît essentiel aussi, c'est vraiment d'amener nos étudiants, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, souvent, plus aujourd'hui qu'hier encore, ce sont des jeunes qui sortent du lycée, qui n'ont bien souvent pas de connaissances de métier ou de pratique. Et pour nous, ça, c'est très important de pouvoir les immerger dans les pratiques professionnelles et dans la réalité sociale et dans l'évolution aussi des politiques publiques. Donc ça, on a aussi, dans l'équipe, vous l'avez dit, hein, sociologue principalement, hein, avec des masters pour la plupart des formateurs et des formatrices à la
haut niveau.
Oui, oui, parce qu'il y a une réforme en 2017 qui demande aussi au centre de formation d'être doté de formateurs et de formatrices qui ont des diplômes universitaires.
Et qui peuvent également enclencher des recherches. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui qu'il y ait des contributions intellectuelles, des publications dans le domaine du social ?
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à ce titre, nous avons une docteure. Voilà, en géographie sociale, voilà, qui vient de finir, hein, voilà, qui a fait une thèse sur les violences intrafamiliales et notamment les violences faites aux femmes, avec une grande réussite de
et
ce côté-là.
Et donc, il y a une méthodologie à la recherche également pour ces jeunes, jeunes apprentis, en tout cas, jeunes professionnels du secteur social.
Et du coup, inévitablement, la question du genre est une question qui est essentielle, en tout cas, dans nos cours et dans l'esprit, en tout cas, de formation de nos étudiants.
Éducation populaire, vous parlez d'émancipation, de pédagogie active, mais vous réclamez également de cette éducation populaire, c'est une formation tout au long de la vie. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réussite ou des anciens diplômés de votre institution qui ont particulièrement réussi, qui aujourd'hui seraient directeurs, directrices ou des éducateurs mythiques dans une des institutions? Est-ce que cela vous vient à l'esprit?
Oui, alors je ne donnerai pas de nom, bien entendu.
Mais certains vont s'y reconnaître.
Certains vont se reconnaître. Mais oui, on a effectivement, d'ailleurs on fête les 100 ans l'année prochaine, donc j'ai déjà invité quelques anciens élèves ou étudiants de la Roitière qui sont passés, alors pas forcément à éducateurs spécialisés, puisque je vous le rappelle, éducateur spécialisé à la Roitière c'est que depuis 2009, c'était vraiment, la Roitière était spécialisée pour la formation de moniteurs, monitrices, éducatrices, mais on a quelques directeurs et directrices aujourd'hui hein, de services de la protection de l'enfance ou dans le handicap qui sont passés par la Roitière il y a quelques années. Et
les anciens vont revenir fêter le centenaire de l'institution.
Je l'espère. Et puis, on a aussi, la semaine dernière, on a un groupe de TISF donc, qui a fini sa formation, qui a passé son diplôme. Et 100% de réussite, puisqu'on parlait tout à l'heure des résultats. On est souvent très proche des 98 et 100% hein, de réussite.
Alors,
quels que soient les niveaux, hein, parce qu'on parle beaucoup là, depuis tout à l'heure de l'éducation spécialisée avec le grade licence, mais on accompagne aussi beaucoup, beaucoup de formations en formation continue, notamment sur des BPJEPS, des CAP-AEPE, et on forme aussi en pré-qualif. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes du territoire qui n'ont aucune qualification et qui viennent se préparer, se former. Et puis, on a un exemple sur les résultats de la semaine dernière d'une élève qui était rentrée au collège de la Roitière, parce qu'on a des classes de 4e et de 3e de découverte des métiers, et puis qui a passé son bac, et puis qui est rentrée en formation de TISF, et qui aujourd'hui a obtenu un diplôme d'État. Après de nombreuses années passées à la Roitière, mais c'est aussi ça, la Roitière, c'est aussi amener des jeunes
les faire grandir.
Oui, tout à fait, merci.
Il faut les faire grandir, ces jeunes qui parfois ont des difficultés, vous tendez la main. Quel beau métier que le nôtre, se faire petit volontiers pour grandir les autres, et c'est une des vocations de votre institution.
Oui, et puis j'ai été, comme vous l'avez annoncé au départ de l'émission, je suis même diplômé éducateur spécialisé et C'est vrai que de me retrouver à la direction générale d'un centre de formation et d'un lycée professionnel, c'est une excellente aventure, c'est une très belle aventure.
Et alors comment on arrive à la tête d'un centre de formation alors qu'en principe, avec votre diplôme, votre expérience, vous devriez gérer ou une grande association, ou gérer une maison d'enfants, un centre, un IME, un ITEP ou handicap, ou polyhandicap, ou autre. C'est quoi ? C'est le chemin ? C'est le hasard ? C'est les rencontres ?
Ben, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Alors, on ne va pas parler de bonne étoile, hein, mais en tout cas, il y a un petit peu cet ensemble-là. Et surtout, il y a aussi la volonté du conseil d'administration, puisque comme nous sommes une association, nous avons un conseil d'administration avec une présidente hein, à la tête de ce conseil. Et nous avons un conseil d'administration qui prône justement l'accompagnement de tous et qui ont posé comme contrainte au recrutement que la personne soit éducateur ou éducatrice spécialisée.
D'accord.
Avec ce volet justement de la poursuite et de l'accompagnement des publics peut-être en difficulté ou en tout cas ayant besoin d'un suivi.
Vous aviez postulé au moment de ce recrutement ou on est venu vous chercher parce que vous aviez des compétences particulières et vous aviez fait savoir que vous étiez disponible? Comment on approche? Comment a travaillé votre conseil d'administration?
Ah ben alors le recrutement a été long et
rude, et long.
rude oui puisque il y avait aussi un cabinet de recrutement hein, qui était présent.
D'accord. Voilà,
donc j'avais estimé à 2% mes chances de recrutement et je m'étais pas trompé puisque nous étions 50. Donc j'avais fait un bon chiffre
et donc, c'était un beau parcours pour vous également.
Oui,
et une satisfaction de gérer cette belle institution.
Oui, et puis vous l'avez dit aussi tout à l'heure Andrés, j'en parlais dernièrement, mais durant mes deux premières années, puisque j'ai entamé ma cinquième année, durant mes deux premières années, c'était réaliser toute la responsabilité qui était la mienne d'être à la tête de cette association et toute la responsabilité qui était la mienne de la faire durer encore au moins tout le temps que moi je pouvais être là. Donc de prendre un relais et de le repasser dans quelques temps, dans années, je suppose, à mon successeur, dans le même état, voire le meilleur état que dans celui dans lequel je l'ai trouvé. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'avais cette crainte-là qu'on se dise, tiens, un établissement qui a 100 ans d'existence ferme ses portes. Donc, c'était une angoisse nocturne qui était difficile parfois à gérer. Mais aujourd'hui, tout va bien parce qu'on a un fort développement, des équipes formidables, vraiment des gens très impliqués, des gens qui sont du territoire ou pas, et des gens qui sont très impliqués dans leur métier, dans leur fonction. Et je dois le dire, là, au micro, que je suis vraiment entouré de personnes formidables et que les gens qui travaillent à la Roitière sont des gens...
Je sens que vous êtes un directeur général heureux, c'est une bonne chose.
Oui.
Revenons au partenariat. Vous avez parlé tout à l'heure, M. David Lantelme, des nombreux partenariats que vous avez. J'ai pointé ici un partenariat de la licence avec l'Université toulousaine Jean Jaurès. Comment on peut nouer ce partenariat avec l'université? Alors c'est la théorie, alors que vous êtes une école dite professionnelle et qualifiante. Les relations avec nos collègues et amis universitaires, c'est assez aisé ou pas de difficulté pour nouer ce partenariat?
Alors écoutez, le travail avec l'université, il se fait déjà depuis de nombreuses années. Vous avez vu que la Roitière, même si elle est dans l'Aude, à côté de Castelnaudary, elle s'est très souvent déplacée sur Toulouse. Pour venir créer des établissements, partager des projets, créer des structures qui permettent de l'accompagnement ou de la formation. L'université était un moment très important aussi, hein, notamment ces dernières années quand nous avons dû passer convention pour obtenir les agréments grade licence d'éducateur et d'éducatrice spécialisée. Mais les formateurs qui sont en place travaillent déjà beaucoup avec différents...
Ils ont déjà des relations avec leurs collègues universitaires, c'est
oui,
ça ?
Oui, avec certains départements de l'université et de très bonnes relations. Et nous avons également travaillé cela alors avec une fédération, hein, la fédération Inaforis, qui est une fédération qui nous sert un peu de guide, en tout cas sur le plan juridique et institutionnel. Et on a travaillé ça aussi avec le groupe ERIR. Voilà. Le groupe ERIR, c'est une fédération aujourd'hui.
Une fédération d'école ?
Oui, c'est une fédération qui regroupe 6 centres de formation d'Occitanie.
Dont l'objectif, c'est de partager, de collaborer ensemble, de lancer des projets, ou comme vous avez dit,
oui, c'est ça.
Peut-être de réguler une sorte de concurrence qui ne soit pas trop frontale.
Disons que peut-être il y a quelques années, quand l'idée du groupe ERIR est venue, c'était peut-être pour se défendre d'eux, mais aujourd'hui c'est plus pour faire avec. Voilà. Et pour créer des idées, créer de nouvelles innovations aussi. Voilà. Et puis, très sincèrement, pendant la période Covid, Andrés, vous le savez, quand on est directeur, parfois on est un peu isolé. Et le Covid, pendant le confinement, c'était encore plus accentué. Et le groupe ERIR a été aussi une source d'échanges, comme elle l'est en général.
D'échanges et de soutien, quoi.
D'échanges de soutien et de tuyaux, de documents partagés et d'échanges aussi, de savoir, de compétences entre nos formateurs et nos formatrices. Et du coup, ça crée vraiment, ça tisse un réseau encore plus important et plus précis.
Vous êtes installé à Perpignan, donc Perpignan, la frontière espagnole n'est pas loin. Avez-vous des partenariats étrangers? Et si oui, est-ce que vous parlez avec vos amis de l'autre côté des Pyrénées, les Espagnols? Est-ce que vous travaillez avec des Portugais, des Italiens? Est-ce que vous parlez avec des centres de formation des pays nordiques? Quelles sont vos relations internationales?
Alors, d'abord pour Perpignan, rappeler que Perpignan est un service, hein, presque un établissement à part entière, hein, sur les Pyrénées-Orientales, puisqu'on a 12 aujourd'hui permanents sur place qui travaillent assidûment.
Donc c'est un véritable service, comme vous dites, un véritable département de formation, quoi.
Oui, avec une directrice en poste, mais plus axé sur des formations moniteur-éducateur et AES. Pour ce qui est de l'international, ça se travaille plus, non pas près de la frontière, mais plus à partir de Castelnaudary, enfin de Souillanels, et avec le lycée, puisque nous avons accueilli pendant un an, là, un corps européen de solidarité. D'ailleurs, nous avons la Roitière à un label qualité. Alors, je ne parle pas de Calliope ni de Certif Région.
Hein, pour la formation continue.
Voilà, que nous avons validé. Donc nous sommes certifiés jusqu'en 2024. Mais nous avons aussi un label qualité, puisque nous avons aménagé un lieu, un site spécifique pour pouvoir accueillir des corps européens de solidarité, notamment des Italiens et des Espagnols. Et nous travaillons aussi avec Erasmus+, voilà, et nous avons un consortium avec la région et avec l'Allemagne.
Avec l'Allemagne, oui, sur le travail social également.
Sur le travail social, et avec l'Université de Séville et de Saragosse. Alors du coup, la formatrice du coup référente Erasmus+ dirait Saragosse.
Ah, Saragosse, voilà. très belle université également qui accueille, d'ailleurs, qui s'est développée très fortement dans le cadre d'Erasmus.
Oui.
Surtout pourrait-on dire les Pyrénées, quoi.
C'est
ça. Il y a Huesca, beaucoup d'universités. Il y a Pau également, le Pays Basque. Donc, université qui pratique une grande ouverture.
Oui, et puis en plus, nous avons embauché dernièrement une personne qui va enseigner, donc plus particulièrement sur le volet de la mobilité internationale, sur le lycée, et qui a une association de corps européen de solidarité.
Ça fonctionne bien. Donc, le budget de Erasmus+, vous avez un budget de combien de bourses par an pour aider vos étudiants? Est-ce que vous avez...
Alors, on a 5 C'est un département qui est pour l'instant un peu un canton, dire. Voilà, c'est pas encore complètement un département, mais département mobilité internationale qui débute. Et on a eu 5 étudiants qui sont partis l'année dernière en mobilité.
Avec des bourses de mobilité,
Bien sûr. Sur le travail social. Et nous avons aussi des groupes d'étudiants du lycée qui sont partis également à Bruxelles, parce que j'avais oublié. On avait également des étudiants du lycée qui sont partis, des élèves qui sont partis
quand
à Bruxelles.
Quand on parle étranger, c'est aujourd'hui, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 3 semaines,
c'est variable. Ça peut être variable, oui.
Voilà, et fonction des projets.
Et je crois que c'est très important de faire fonctionner les durées en fonction des projets des jeunes, que ce soit élèves ou étudiants. Et puis aussi de la capacité d'accueil des sites qui nous hébergent aussi sur place.
Et vous accueillez, vous aussi, bien entendu, des Espagnols, des Italiens qui viennent sur Castelnaudary, sur Perpignan.
Oui.
Donc il y a un véritable creuset européen.
Et un échange important.
L'Europe est proche de Castelnaudary, on peut dire ça, de Perpignan.
Et Castelnaudary, alors nous, on est dans un petit village qui s'appelle Souyanels, qui est proche de Castelnaudary. Et c'est vrai que Castelnaudary est du coup jumelé avec Maradi. Et La Roitière participe à la foire au gras, qui est une foire qui attire beaucoup de monde, puisqu'il y a la confrérie du cassoulet, bien entendu, hein, à Castelnaudary, on ne peut pas l'oublier. Et la Roitière, les élèves de La Roitière participent au grand banquet avec du service sur les bacs pro et les capas. Ils servent là-bas, sur place, avec 500 convives. Et du coup, on a des relations importantes et très, très proches avec le maire et les collectivités de Maradi, qui est en Italie, et avec des projets à l'international qui sont bien actifs.
Quand vous parliez de l'Italie, moi, je vous propose une deuxième pause musicale et nous partons en Italie en concert avec le meilleur jazzman italien, Paolo Conte.
Ho ballato di tutto, lo sai, sui sentieri dei gramofoni, sai, Woody Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai, gente nuova e gente vecchia, lo sai, Smoothie Smoothie. Blue Flame, Blue Love. Mai nessuno che abbia amato, lo sai, i miei piedi, mai nessuno, lo sai, futi futi. Vedi i piedi e il cuore proprio così, sono i primi che si stancano, sì, mudi mudi. Oh, blue flame, blue love. Sono così, come si usa dire, sono così, tutti tutti, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà, blu di blu di, blu, flame, blu, love. Calda sono così, come si osa dire sono così, puri duri, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà, blu di blu di, oh blu, flame, blu, cave.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Sentinelle d'Humanité.
Sentinelle d'Humanité qui reçoit aujourd'hui le directeur général de l'Arroitière, belle institution qui va fêter bientôt ses 100 ans, son directeur, monsieur David Lantelme. Ça va vite, une heure, mon cher David, et pourtant on a encore des choses à dire. Votre conseil d'administration fonctionne comment? Aujourd'hui, votre présidente, elle vient d'où? Quel est son parcours professionnel, académique? Et comment peut-on être administrateur d'une institution comme celle de la Roitière? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de votre conseil d'administration?
Bien entendu, puisque pas de conseil d'administration, pas d'association. Hein, donc, s'il n'y a pas d'association, pas de Roitière. Donc, le conseil d'administration est composé de 12 membres.
Issus du territoire.
Issus essentiellement.
Essentiellement et exclusivement du territoire. Exclusivement du territoire.
Ils sont principalement des gens cooptés. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la présidente, Madame Martin, Nicole, qui est ancienne infirmière et cadre hospitalier et maire du village voisin, qui officie en tant que présidente.
Ce sont des militants, quoi. Ils s'impliquent, ils sont engagés.
Ce sont des militants et ce sont surtout des personnes qui sont très ancrées sur le territoire et qui veillent, et je les en remercie, qui veillent effectivement à ce que la Roitière ne perde pas de vue la question du territoire, la question de l'engagement, la question du suivi et de l'accompagnement des publics, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que depuis des décennies, les conseils d'administration est présent avec des personnes qui se relaient. Hein, et à chaque fois que les personnes prennent le relais de ceux qui partent, la même philosophie, la même envie. Et du coup, ils permettent aussi que le directeur général puisse développer des projets et répondre aux besoins du territoire.
On va parler bien entendu des projets, mais abordons aussi une question fondamentale pour la formation. Le financement de toute cette institution de formation, ça passe par les départements, la région, la cohésion sociale. Quelles sont vos sources de financement pour réussir, comme vous dites, construire ensemble votre parcours pour votre réussite?
Alors pour la petite anecdote, Andrés, j'étais directeur adjoint, voire directeur à un certain moment sur la protection de l'enfance. Et lors des budgets, j'avais 3 lignes produits au grand maximum. Et quand on gère une association comme la Roitière avec un lycée, un centre de formation en travail social, on se retrouve avec plus de 120 lignes produits. Donc une autre dimension de budget. Voilà. Mais le CAFDES est passé par là, donc tout va bien. Et en fait, non.
Vous avez une formation solide.
C'est ça. Et puis, c'est 3,5 millions environ, hein, entre 3,5 millions et 3,8 millions de budget par an. Avec un fort financement par des subventions, hein, de fonctionnement pour le centre de formation en travail social que nous révisons chaque année, hein, lors de procédures contradictoires. Voilà, mais du coup.
Et là, c'est quoi? C'est la région Occitanie qui finance les formations?
Essentiellement
la région.
La région Occitanie, voilà, qui finance les formations en travail social et qui finance avec des dotations élèves pour le lycée.
D'accord.
Qui représente à peu près 60% du budget, en tout cas, dans la ligne produit, c'est à peu près 60-65%.
Est-ce que les familles participent, les élèves participent?
Oui,
à hauteur de combien? Peut-être un pourcentage?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très utile de donner des chiffres, voilà, qui donnent des prix, parce que ça ne va pas parler à grand monde. Par contre, ce que je peux dire et que je peux dire à voix haute, c'est que nous avons les deux établissements de l'association sont de ceux qui sont les moins chers.
D'accord.
Sur la région Occitanie, en termes de participation
des
aux étudiants,
voilà,
ou aux familles, avec
d'accord,
des aides de bourse, avec aussi un accompagnement. Voilà. Mais bas prix ne veut pas dire faible qualité. Voilà, parce que voilà, nous avons
la question du prix.
On est bien d'accord.
Je pense qu'en innovation, certains économistes disent qu'il y a le prix et le hors prix. L'innovation, c'est souvent le hors prix. Donc, il faut essayer de pratiquer de la qualité hors prix.
Oui, et puis on parlait de la région. Enfin, je tiens à souligner le soutien de la région Occitanie dans nos projets, dans nos développements, dans les aménagements, dans les investissements. Et puis, toujours une équipe vraiment à l'écoute de nos préoccupations. Et ça, c'est important de le souligner, puisque j'ai la possibilité parfois d'être dans des échanges interrégionaux. Et je m'aperçois qu'il y a certaines régions qui ne traitent pas leur centre de formation de la même manière. Ouais. Et ici, en région Occitanie, on est très bien accompagnés, bien dotés.
Est-ce que vous sollicitez parfois les mécènes en lançant des campagnes dites de fundraising, c'est-à-dire des collectes de fonds pour des projets où c'est une pratique que la Roitière ne fait pas aujourd'hui?
Alors, en fait, je suis directeur général, mais je suis aussi directeur financier, je suis directeur des ressources humaines, je suis directeur
multicarte.
Voilà, et c'est un volet que je n'ai pas eu encore l'occasion. Mais j'en profite d'être à l'antenne pour lancer un appel.
Ceux qui veulent être des mécènes du centre de formation, ils peuvent faire un don, c'est ça.
N'hésitez pas, nous avons de beaux projets en perspective. Voilà.
Et justement, les projets, quelques minutes qui nous restent, c'est quoi pour se lancer pour alors les 100 ans de plus, quoi? Est-ce que vous avez réussi à arriver à 100 ans? Il faut préparer les 100
qui arrivent.
Les 100 années qui arrivent.
C'est ça, exactement, vous avez raison.
Alors, quels sont les projets?
Alors, il y a des projets, bien sûr, de maintenir, voire de développer les formations qui sont actuellement dispensées sur les deux établissements. Chaque année, sur le lycée, c'est la course au recrutement, puisqu'il faut arriver à démontrer que c'est plus intéressant de venir chez nous qu'ailleurs, au regard des offres du service public, en termes de lycée notamment. Et puis, c'est aussi un gros projet de construction sur le site de Souyanels, avec un agrandissement de notre centre de recherche et de documentation. Voilà, on va doubler la capacité. Et puis surtout, ça, je pense que ça va vous plaire, Andrés, du coup, on va aussi faire un amphithéâtre. On va construire un amphithéâtre.
Un amphithéâtre, une belle salle pour donner une dimension universitaire, c'est ça?
Voilà, et puis pour un peu clôturer le volet campus que veut se donner aussi la Roitière, puisqu'on a aussi un gymnase, un terrain sportif qui est en construction, pour aussi donner de la valeur au bien-être.
Un campus du travail social et des métiers de l'accompagnement dans le milieu rural et bien entendu dans la ruralité, ce campus qui ouvre, c'est un beau projet ça, c'est une belle dimension, c'est assez innovant de dire ça aujourd'hui.
Oui, c'est assez innovant, et puis je pense que la Roitière a aussi cette spécificité-là d'accueillir plusieurs publics dans un même endroit avec des échanges, je vous disais tout à l'heure, parce qu'on accueille aussi les enfants du territoire le midi pour qu'ils viennent manger, les enfants des maternelles et des primaires voisines, et du coup on se retrouve avec beaucoup de monde, beaucoup de projets, beaucoup d'idées et des envies, beaucoup d'envies, et c'est vrai que les projets, ça va être de développer tout ça, de continuer à répondre aux besoins du territoire avec la création aussi d'un centre aéré qui permettra d'accueillir les enfants aussi du territoire pendant les vacances scolaires et les mercredis. Et voilà, et puis...
Et si ça continue comme ça, vous allez me dire que vous allez créer un centre culturel bientôt.
On est en train de travailler un espace de vie sociale dans les villages voisins. S'est aperçu aussi qu'il y avait un...
La culture, c'est essentiel.
Oui, et puis il y a vraiment une désertification de la ruralité pour aller vers les grandes villes ou les zones commerciales et industrielles. Et nous, on veut tenter, en tout cas, par la création et la mise en place d'espaces de vie sociale dans nos villages alentours, on veut recréer justement la rencontre et puis qu'on revive un petit peu ce qu'on vivait nous quand nous étions jeunes sur nos places de village.
Mon cher David, nous arrivons au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui vous écoutent aujourd'hui pour qu'ils viennent étudier à la Roitière? Qu'est-ce qui vous singularise? Quelle est la phrase, quel est le slogan que vous êtes prêt à prononcer pour que des jeunes puissent venir vous rejoindre et suivre donc une scolarité pleine et épanouie.
Alors vous me prenez au dépourvu, Andrés, bravo. Mais non, moi je pense que la Roitière, c'est vraiment un établissement d'abord qui a...
Venez chez nous, c'est un établissement fun.
avec des lumières, avec une boule à facettes, etc. Non, plus sérieusement, je pense qu'on a un lieu qui... On a un site remarquable déjà, très propice justement aux études, puisqu'on a différents aussi paramètres, centres de documentation, des formateurs et des enseignants qui sont formés et qui ont vraiment cette toile de fond, on en parlait aussi, cette toile de fond qui est accueillir et accompagner les publics jusqu'au bout de leur projet. Et c'est vraiment cela qu'on dit, c'est-à-dire que venez, vous y serez bien accueillis, on vous écoutera, on entendra quelles sont vos préoccupations et vos projets, et nous on essaiera de tout mettre en œuvre pour vous faire en sorte que vous puissiez réussir.
Et au bout, le diplôme et un emploi dans le secteur social,
oui, parce
et bien entendu dans la ruralité.
On a une petite phrase qui est une formation, un diplôme, un emploi, voilà. Et c'est exactement ça.
Merci Monsieur Lanthelme, La Roitière, 1923 à nos jours, 100 ans, belle institution qui accueille des jeunes en formation. Merci de votre présence dans Sentinelle d'Humanité et on se retrouve très bientôt avec d'autres invités de notre secteur.
Merci à vous Andrés, merci pour cette belle émission. Merci.